qu'un dernier épargne. Hein.
Donc le meilleur morceau est pour la fin. Voilà. Bien Karen, il nous reste à voir les septièmes demeures. Et les septièmes demeures, dans la vie de Thérèse, ça commence à une date bien précise. Le 18 novembre 1572. Elle est morte en 1582, je dis compte, il lui reste 10 ans à vivre. Hein. Elle a donc à ce moment-là 57 ans. Et je vais vous lire tout de suite les récits qu'elle a conservés de cette aventure. Il y a toute une série d'écrits, de paragraphes plus ou moins longs, des Sainte-Thérèse où elle compte les faveurs de Dieu. Et voici. Au couvent de l'Incarnation, Avila, 1572. Elle est prieure à ce moment-là à l'Incarnation, le couvent de l'Incarnation, qui est le couvent de l'ancienne, enfin de la pratique ancienne de la règle. C'est un couvent qu'elle n'a pas fondé. C'est dans le couvent dans lequel elle est entrée comme jeune religieuse. Et elle est devenue, avant de quitter définitivement pour la branche réformée, elle est devenue prieure dans ce couvent. À l'Incarnation, la deuxième année de mon priorat, le jour de l'octave de Saint-Martin, on peut noter, vous voyez, c'est le 18 novembre, hein, 8 jours après le 11 novembre, j'allais communier lorsque le père, frère Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix, qui me donnait le très saint sacrement, partagea l'hostie en deux, et en donna une moitié à une autre sœur. Le geste est bien connu, oui. Je pensais que ce n'était pas faute d'hostie, mais qu'il voulait me mortifier, parce que je lui avais dit que j'aimais beaucoup recevoir de grandes hosties, sans ignorer toutefois que si petite soit la parcelle, cela n'empêchait pas que le Seigneur y soit tout entier. Sa Majesté, donc le Seigneur, me dit: n'aie pas peur, ma fille. Personne ne pourra jamais te séparer de moi. Et il me fit entendre que c'était sans importance, la demi-hostie. Alors, il m'apparut, attention, en vision, en image encore, hein, c'est mis en vision. L'auteur que j'ai, il a traduit en vision imaginaire. J'avoue que j'aime pas beaucoup ce mot imaginaire parce que ça fait un peu malade imaginaire, tu vois. Oui. Je préfère employer l'expression vision en image qui est fidèle à l'espagnol. Il m'apparut en vision imaginaire comme d'autres fois au plus profond de moi-même. Notons ça en passant. Il me donna sa main droite et me dit: regarde ce clou. C'est le signe que tu seras mon épouse à partir d'aujourd'hui. Tu ne l'avais pas mérité jusque-là. À l'avenir, tu ne répondras pas de mon honneur en tant que ton créateur, ton roi ou ton Dieu, mais comme ma véritable épouse. Mon honneur est le tien, et le tien est le mien. Voilà donc ce qu'elle a noté sur le show, n'est-ce pas? Quelques années après, quand elle écrit le château intérieur, qui a été sous-jacent à toute notre rencontre, elle dit ceci: venons-en donc à parler du mariage spirituel. Et elle en parle donc dans les septièmes demeures, c'est à la fin de l'ouvrage. Et la question, en théologie spirituelle, on parle souvent du mariage spirituel, ça. Et nous verrons ce que c'est là tout de suite. Et le mariage spirituel, bien que ses hautes ferveurs ne doivent pas atteindre sa perfection en notre vivant, hein, mais nous perdrions à ce moment-là cet immense bienfait si nous nous écartions de Dieu. Et donc, elle veut montrer à l'âme, la première fois que Sa Majesté accorde cette faveur, par une vision en image, elle veut montrer à l'âme sa très sainte humanité pour qu'elle en ait la pleine connaissance et n'ignore rien du don souverain qu'elle reçoit. À d'autres personnes, le Seigneur pourra se présenter sous une autre forme. À celle dont nous parlons, c'est elle-même, hein, alors qu'elle venait de communier, il apparut dans la splendeur, la beauté, la majesté qu'on lui vit après sa résurrection. Il lui dit qu'il était temps qu'elle s'occupe de ses affaires à lui, qu'il s'occuperait des siennes, et d'autres paroles plus sensibles que communicables. Il n'y avait là, semblera-t-il, rien de nouveau, puisque le Seigneur s'était déjà manifesté à cette âme de cette manière, vision intérieure toujours. Hein. Ce fut toutefois si différent qu'elle en fut bien affolée et effrayée. D'abord parce que cette vision fut intense, ensuite à cause des paroles que le Seigneur lui dit, enfin parce qu'il se manifesta à l'intérieur de son âme, ce qui ne s'était jamais produit, sauf dans la vision qu'elle venait d'avoir. Comprenez-là, la différence est immense entre toutes les visions précédentes et celles de cette demeure, entre les fiançailles spirituelles et le mariage spirituel. Il y a la même différence qu'entre l'état de deux fiancés et celui de ceux qui ne pourront désormais se séparer. Effectivement, on a raison de parler de mariage spirituel parce que ça porte toutes les qualités du mariage. Le mariage humain, entre êtres humains, plus fortement encore dans le sacrement de mariage, hein, comporte ces dimensions-là. C'est pour toujours. Quand vous vous êtes marié, on vous a demandé de signer un engagement qui était pour toujours, n'est-ce pas ? Oui, à l'église. Oui. Et c'est pour toujours. D'autre part, c'est se donner l'un à l'autre entièrement, corps et âme, si vous voulez. Hein ? Et donc, tout est en commun entre deux époux dans le sacrement de mariage. Eh bien ici, notons ce que le Seigneur dit. Rien ne pourra te séparer de moi. Hein? C'est pas pour toujours, ça je ne comprends plus, n'est-ce pas? Donc, c'est pour toujours. Oui. Encore faut-il dire que ça n'enlève pas la liberté de la personne. Hein? Simplement, ça lui donne une certaine assurance que, librement, elle voudra toujours aller dans le même sens que le Seigneur, hein, dans la volonté du Seigneur. C'est pour toujours. Bon. Ton honneur est le mien, mon honneur est le tien. C'est-à-dire que tout ce qui fait moi-même, hein, tout ce qui me donne mon honneur d'être un être humain, bien désormais, tout est à toi. Et tu es toi-même tout entière à moi. Et pour finir, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiennes. Et pas seulement pour jouer, pour jouir qu'on est ensemble, mais c'est vraiment pour travailler ensemble. Et nous allons voir tout de suite ce qui se passe dans la vie de Thérèse. À partir de ce moment-là, eh bien, fini toutes les grâces dont nous avons parlé ce matin. Et je vais vous citer un texte tout à l'heure. C'est un peu comme, vous savez, les fiancés. Eh bien, ils sont ensemble, ils se caressent, ils font des amours, etc. C'est vraiment le temps de... Bon. Et puis, une fois qu'on est marié, allez, maintenant, filles, rire, hein, on travaille ensemble. Oui. C'est véritablement ça, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiennes. Bon, écoutez, vous avez le droit de contester ce que je dis là, parce que je n'ai moi-même pas l'expérience du mariage humain, n'est-ce pas ? Bon, mais en tout cas, occupe-toi de mes affaires. Et nous allons voir en effet que dans les 10 dernières années de sa vie, Thérèse donne la pleine mesure de sa nature et de son génie, car c'est quand même du simple point humain, simple point de vue humain, une grande pointure. Vous savez qu'en Espagne, quand ils parlent de la Santa, on se trompe pas. Hein. La Santa, c'est Santa Maria de Avila. Oui, hein. Il y a peut-être d'autres saintes espagnoles, sûrement, mais quand on parle de la Santa, c'est Sainte Thérèse. Ah. Alors, vous voyez, à partir de là, eh bien, elle donne la plénitude de son génie, mais d'une manière très simple. Voici, si vous voulez, une communication qu'elle fait. Le texte que je vous ai lu du château intérieur date de 1576. Le texte, le premier que je vous ai lu, était écrit sur le chaud en 1572. En 1576, elle a digéré quelque peu son expérience et elle exprime plus sobrement. Et voici ce qu'elle écrit en 1581. Donc, un an avant sa mort. Ça, elle fait une relation, là, à quelqu'un qui l'a accompagné spirituellement, un père spirituel qu'elle a eu, et qui, à ce moment-là, est devenu évêque de Palencia. Et elle lui écrit ceci. Puis-je, je ne vous lirai pas toute la relation, il y en a 3 pages et demie. Puis-je bien faire comprendre à votre seigneurie la quiétude et la paix où se trouve mon âme? Car elle est maintenant si sûre de jouir de Dieu un jour qu'il lui semble le posséder déjà, toutefois sans sa joie. Pas toujours, elle n'est pas toujours à la fête même pendant ces années-là. Ça. Et alors, elle montre comment elle est beaucoup moins tendue dans sa vie. Hein. Cela dit, en ce qui concerne sa santé et son corps, elle parle de elle tout du long dans la troisième personne. Ce qui concerne sa santé et son corps, elle en prend, ce me semble-t-il, plus grand soin. Elle se mortifie moins quant à la nourriture et par la pénitence, donc elle le désire moins, mais il apparaît que son but essentiel, est de mieux pouvoir servir Dieu en d'autres choses. C'est Dieu qui compte, ça. Même plus que les mortifications que l'on pourrait faire. Et je continue, les visions en images ont cessé. Mais on croit vivre constamment avec cette vision intellectuelle de ces 3 personnes de l'humanité, qui est, à mon avis, chose beaucoup plus élevée. À ce que j'entends, je comprends maintenant que les visions que j'ai eues étaient de Dieu, car elles préparaient l'âme à l'état dans lequel elle est manifestement. Les paroles intérieures n'ont pas cessé. Et quand c'est nécessaire, notre Seigneur me donne quelques avis. Dernièrement même, à Palencia, on aurait fait sans cela une grosse sottise qui, toutefois, n'eût pas été un péché. Donc, de temps en temps, il y a quelques paroles intérieures qui viennent quand même. Mais c'est beaucoup plus calme désormais. Hein. La paix intérieure, j'arrive vers la fin, contre laquelle contentement et paix et mécontentement sont presque impuissants, et telle que cette présence si indubitable des 3 personnes se maintient clairement. Elle parle de la soumission à la volonté du Seigneur. Cette soumission a tant de force qu'elle ne veut ni la mort ni la vie, sauf au bref instant où elle désire voir Dieu. Mais aussitôt, le sentiment de la présence des 3 personnes est si fort qu'il apaise la peine que cause cette absence, et reste le désir de vivre s'il le veut pour mieux le servir. Et voilà la dernière parole qui est sortie de sa plume. Et si je pouvais contribuer à ce qu'une seule âme l'aime davantage et le loue mieux par mon intercession, ne serait-ce que pour peu de temps, cela me semblerait plus important que d'être au ciel. Voilà donc, ça, que d'être au ciel. Alors, voilà, si vous voulez, ça, je vous ai dit, le 18 novembre 1572, c'est grâce du mariage spirituel. Finalement, au temps des 6e demeure dont nous avons parlé ce matin, elle connaissait des extases. Mais l'extase, c'est une faiblesse, finalement. c'est une personne qui ne peut pas supporter dans sa condition normale en ce bas, en ce monde, là, l'emprise de Dieu sur elle. Il est probable, on n'a jamais eu aucune des paroles là-dessus, mais que la Vierge Marie n'a jamais eu d'extase. Elle vivait pleinement accordée dès le départ avec le Seigneur, n'est-ce pas ? Et ça n'a pas perturbé sa vie humaine dans toute sa plénitude. Et Thérèse arrive, toute proportion gardée, dans cette phase du mariage spirituel, à une vie aussi beaucoup plus normale, beaucoup moins riche en choses extraordinaires, ça. Mais tout simplement, eh bien, elle fait la volonté du Seigneur, presque instinctivement, si l'on peut dire, ça, et voilà. Et du coup, elle donne la plénitude de son génie. Parce que ces 10 dernières années, véritablement, on s'aperçoit que Thérèse et le Seigneur Jésus, en un sens, ne font plus qu'un, d'une certaine manière, et que son intelligence, sa volonté, son affectivité, tout cela porte vraiment la marque du Seigneur, et en même temps, garde la marque de Thérèse. Je prends un peu le détail, si vous voulez. C'est à ce moment-là qu'elle écrit le château intérieur dont nous avons parlé, qui est véritablement le chef-d'œuvre de l'expression de toute sa vie spirituelle. Nous avions à étudier les étapes de la vie de Thérèse, de la vie de Sainte Thérèse, nous arrivons à l'étape finale, qui est vraiment la plus grande qu'il puisse y avoir sur Terre. Son intelligence, donc, écrit ce château, celle du château, avec ceci de particulier, elle l'a écrit en deux périodes, séparées par un intervalle d'un mois ou deux, qui l'ont fait changer de résidence, et elle l'a écrit d'un seul jet, sans une seule rature. On a le manuscrit. Et on a aussi le témoignage d'une petite sœur du couvent qui un jour, un soir, frappe à sa porte quand elle était en train d'écrire. Alors il pouvait être 9h du soir, la madre dit « Attends un peu petite, il faut que je finisse ma phrase. » Elle écrit, la petite attend, hein, et elle attend jusqu'à minuit. Hein, sans remarquer parce que elle est elle-même complètement saisie de voir la madre qui écrit mais comme si elle était inspirée constamment et les lignes s'annoncent et les feuillets tombent comme ça et elle a complètement oublié la petite qui est là oui et elle écrit donc le château de cette manière là qui est quand même son chef-d'œuvre, que je crois aussi un des chefs-d'œuvre de la spiritualité chrétienne. Ça pour son intelligence, sa volonté, son énergie. Elle est chroniquement, si l'on peut dire, malade. Son estomac ne passe pas grand-chose, elle vomit tous les soirs ou à peu près. Et donc, elle est aussi très fatiguée à certains moments. Et quand elle va fonder Burgos vers la fin de sa vie, eh bien oui, on la promène dans un chariot où elle est allongée, ou à peu près. Et pourtant, pendant cette période-là, sur les 17 couvents qu'elle aura fondés, elle en fondera 8, c'est-à-dire la moitié. Et elle en fondera 4 tout d'abord. Là j'ai le détail, c'est pas la peine qu'on en soit là-dedans. 4 dans une relative paix. Paix extérieure. Mais quand elle fonde la 4e de ces fondations-là, à Séville, dans la ville de Séville, elle se trouve au cœur d'une lutte, une bagarre entre les Carmes et la branche du Carmel qui n'était pas réformée et qui voyait ça évidemment d'un très mauvais œil, et Thérèse appartenait toujours canoniquement à cette branche-là. Et donc, elle se trouve là, sous l'autorité d'un provincial qui lui est très opposé, qui lui impose à un moment donné d'ailleurs de quitter Séville qu'elle vient de fonder, pour s'enfermer dans le couvent qu'elle choisira et n'en jamais sortir. Ce qui finalement, les choses sont arrangées, elle s'est sortie encore, ça. Mais, donc, en pleine bagarre, c'est à ce moment-là que l'un de ses fils et l'un des plus éminents, Jean de la Croix, est mis en prison et maltraité, n'est-ce pas, par ses frères, n'est-ce pas, pendant lui. Et il s'en tire dans ses radons. Elle-même est menacée d'excommunication. Et dans tout ça, malade et tout ça, eh bien, elle trouve le moyen encore de tenir le coup, jusqu'au moment où finalement, le roi d'Espagne prend parti. Et à l'époque, le roi d'Espagne était aussi le maître au point de vue religieux dans son pays, tu vois, eh bien, annonce à un visiteur qui était venu finalement pour la condamner ou la mettre à la raison, lui dire que lui, roi d'Espagne, il estimait beaucoup l'œuvre que faisait Thérèse dans son royaume au point de vue même de la vie chrétienne. Vous savez, et donc, il désirait beaucoup qu'on laisse en paix Thérèse d'Avila. Les désirs du roi d'Espagne étaient des ordres à cette époque-là. Et donc, elle a retrouvé la paix. Et elle a pu repartir et fonder encore 4 nouveaux couvents avant de mourir. C'est vous dire, n'est-ce pas, l'énergie qu'elle avait à ce moment-là. Pourquoi ? Ah, le Seigneur et elle travaillaient de concert, si on peut dire. Et les œuvres portaient à la fois la marque du Seigneur par leur perfection et la marque de Thérèse aussi par la manière dont ça se passait, dans son tempérament à elle. Et même son affectivité, à ce moment-là aussi, donne sa pleine mesure. On parle très souvent d'un couple, Thérèse d'Avila, Saint-Jean de la Croix. Ce n'est pas tout à fait juste. D'abord, Saint-Jean de la Croix a 30 et quelques années de moins que Thérèse d'Avila. Et d'autre part, Sainte Thérèse a remarqué tout de suite et mesuré la grande pointure de Jean de la Croix, elle a énormément d'estime pour lui, mais le penchant du cœur va vers un autre carme, qui lui aussi pourrait bien être canonisé un jour, c'est le père Jérôme Gratien de la Mère de Dieu, qui est le premier provincial et du Carmel réformé. Et alors, Gratien a à peu près le même âge que Jean de la Croix. Et donc, si vous voulez, ça forme un couple qui n'est pas comme celui, par exemple, de Saint-François. Il y a des couples dans l'histoire de l'Église. Saint-François et Sainte-Claire, par exemple, ce soir, fondant l'un et l'autre l'ordre franciscain pour l'une et l'autre branche masculine ou féminine. On peut parler encore, par exemple, de Saint-François de Sales et de Sainte-Jeanne de Chantal, qui font l'ordre de la Visitation. Il y en a d'autres encore. Eh bien, le couple Thérèse-Jean de la Croix, ce sont évidemment les deux qui sont à l'origine, mais le couple estimation affective, c'est Thérèse et Jérôme Gratien. Au point, vous voyez, que Thérèse, qui n'avait pas peur des mots, un jour elle écrit au père Gratien en lui disant « Et comme il faut que nous remercions le marieur qui nous a réunis. » El Caramendero, tout simplement, c'est dire que, voyez comment elle se considérait un peu. Hein. Donc son affectivité elle-même, une affectivité où évidemment il n'y a rien à reprocher et qu'ils doivent retrouver un peu tel quel, mais complètement développé dans le temps, l'éternité. Et donc voilà les 10 dernières années de la vie de Sainte-Thérèse et les 7e mesure. Je voudrais vous laisser là-dessus, tout simplement, hein, en vous souhaitant aussi que, c'est la grâce que je vous souhaite, que nous pouvons nous souhaiter, n'est-ce pas, chacun à notre pointure, hein, tout simplement. Bon. Et là, comme il était convenu, si vous voulez bien, si vous avez des questions, n'est-ce pas, nous prenons un certain temps. Hein, des questions, ou même simplement aussi, signaler par exemple telle ou telle chose qui a pu vous éclairer davantage sur la Sainte-Thérèse et le Carmel à ce point de vue-là. Hein. Tout simplement, un échange très simple, là, si vous voulez bien.
Ah. translated her thing. Yeah. go home.
Still running.